le micro n'est peut-être pas utile.
Ah, c'est enregistré, c'est vrai, j'avais oublié ce détail.
Voilà, donc merci de votre attention et de ce silence qui montrait une certaine une qualité d'écoute. Alors, je ne sais pas si vous êtes, comme le narrateur, écrasé par peut-être la gravité des problèmes soulevés ici, ou si vous flottez en apesanteur, qui est peut-être le message du narrateur en fin de propos. Alors, simplement, donc, peut-être avant de lancer le temps d'échange, quelques mots sur l'auteur de ce documentaire, donc la documentariste Laurence Scarbonchi. Peut-être vous avez repéré un peu ces différentes entrées. À la fois, elle privilégie une approche macro et une approche micro, c'est-à-dire qu'on a une approche globale, un certain nombre de grandes données, dont certaines sont bien connues maintenant, et puis des études de cas, hein, très, très localisées, telle mare, tel étang, telle problématique locale, un champ de maïs par exemple. Donc comme ça, on a un aller-retour entre une vision macro et une vision micro. Et ce que je trouve intéressant également dans son approche, c'est le fait qu'elle croise beaucoup de regards, beaucoup de compétences, un regard très, très pluridisciplinaire. Donc effectivement, des personnes qu'on s'attend à entendre, hein, des chercheurs CNRS, des hydrologues, des climatologues, des glaciologues, mais également des géographes, des biogéographes. Elle donne la parole également à au moins un journaliste, c'est-à-dire que la question de la diffusion de la culture scientifique. Elle donne la parole finalement à l'interdisciplinarité qui caractérise le problème de l'eau. Et ça me paraît intéressant. Car bon, c'est le quand j'ai vu ce documentaire pour la première fois, ça devait être en juin. Ça, c'est des choses qui m'ont frappé. Ces allers-retours, hein, une fois encore, entre le micro et le macro, et ces nombreux acteurs, évidemment, qui peuvent donner aussi une vision un peu de dispersion. C'est-à-dire qu'il y a énormément de problèmes qui sont abordés, énormément de champs qui sont traversés, et c'est lié au fait qu'on a des experts dans de nombreux domaines qui prennent successivement la parole. Alors effectivement, les données générales, hein, sont peut-être un peu accablantes, mais on a aussi, me semble-t-il, pas mal d'exemples qui donnent à allumer quelques lueurs d'espoir, me semble-t-il, sur la problématique de l'eau. Mais je ne vais pas ici prendre la parole plus longtemps, et c'est plutôt à vous d'avoir la parole, effectivement, pour alors soit des réflexions. Moi, je vous ai fait part de mes réflexions qui sont un peu spontanées. Donc, vous pouvez faire de même, effectivement, ou peut-être nous questionner sur cette question de l'eau.
Oui, je t'en ai touché deux mots pendant la projection. En fait, les cartes qui ont été projetées au début sont de 2000. Et la situation aujourd'hui est plus grave que ce qui apparaît là en termes de sécheresse et de zones qui sont à considérer. Vous vous souvenez, elles étaient en rouge ou en jaune. En fait, ces couleurs rouges et jaunes ont avancé largement au niveau du sud de l'Europe. Ça a atteint l'Espagne et le sud de la France aussi. Et vraisemblablement aussi l'Italie du Sud. Donc il y a une évolution qui est quand même assez rapide dans ce sens-là.
Oui, tout à fait. J'avais relevé un certain nombre de chiffres qui concernaient l'Europe. C'est vrai qu'actuellement, on est à 17 ou 18% du territoire de l'Union européenne qui est affecté par un stress hydrique sévère. Bon, ça correspond à un certain nombre d'indicateurs. Et on projette à hauteur de 2070 un stress hydrique de l'ordre de 35%, c'est-à-dire 35% du territoire de l'Europe qui serait affecté. Donc, effectivement, la carte qu'on a eue sous les yeux, donc elle a 12 ans. Les projections vont plutôt dans le sens d'un accroissement de ce stress hydrique sévère. Alors, c'est vrai que parler aujourd'hui de stress hydrique sévère avec ce qui nous tombe sur la tête depuis deux jours, mais effectivement, le stress hydrique, il est lié à des périodes Il est lié à la problématique de la répartition de l'eau. Alors, il y a la répartition de l'eau sur l'ensemble de l'année, c'est-à-dire qu'on peut avoir des pluies diluviennes pendant quelques jours, suivies d'une période de sécheresse. Là, de fait, on vient, nous, en France, de vivre une période de sécheresse assez importante. Voilà, cet afflux d'eau ne contrebalance pas cette progression. Tout à fait remarqué depuis quelques années de ce stress hydrique qui devient de plus en plus sévère. Alors, bon, on a connu effectivement la canicule de 2003 qui a laissé non seulement des souvenirs, mais également une ardoise, puisqu'elle a coûté 9 milliards d'euros et touché 100 millions de personnes et un tiers du territoire de l'Union. Donc, on a effectivement des données qui sont assez... assez clair et économiquement, oui.
Moi, sur les cartes que vous avez présentées, j'ai été surprise par la bande jaune européenne qui part des Pays-Bas et qui traverse l'Europe comme période, comme région sèche, enfin, entre guillemets.
Là, effectivement, enfin, ce ne sont pas mes cartes, hein, mais effectivement, les cartes qui ont été présentées montrent. Alors, il y a un jeu de couleurs. Alors, les zones, effectivement, qui sont sèches, ce sont des zones qui peuvent subir un stress hydrique à certaines périodes de l'année. Donc là, on connaît, par exemple, en France, on sait très bien, il y a de plus en plus de départements et de plus en plus précocement qui font l'objet d'un arrêté préfectoral pour limiter l'utilisation de la consommation d'eau. Donc, il y a des contraintes par rapport au lavage de voitures, remplissage de piscines, etc. Donc, ce sont des périodes comme ça. Alors, effectivement, si la période augmente, si les restrictions deviennent plus précoces dans le printemps et se poursuivent plus tardivement dans l'été, à un moment donné, effectivement, ça se traduit. On dépasse un certain nombre de seuils et puis ça se traduit sur les cartes par ces changements de couleur, bon, qui sont des changements assez globaux, hein, mais... On a effectivement cette...
C'est plus surprenant en Europe qu'en Afrique.
En Europe qu'en Afrique, effectivement. Alors, on a l'impression, ou on avait encore l'impression, d'être préservé, d'être protégé de ce type de problème. Bon, effectivement, on a en France beaucoup une production d'eau en bouteille qui est énorme. Hein. Les plus grandes entreprises, les majors de l'eau comme Veolia, la parole était donnée à la chargée de communication de Veolia dans le film. Veolia ou d'autres, enfin il y a trois ou quatre dites majors de l'eau, et effectivement on est leader mondial en matière de production d'eau et de gestion d'eau. Donc il faut dire, oui, effectivement, on a un marché porteur et on ne risque pas d'être frappé par des pénuries. Eh bien si, effectivement, il y a un certain nombre de données qui le montrent.
Oui, pour rester au niveau européen, le film évoque la directive cadre européenne sur l'eau. Oui. Est-ce que vous pouvez rappeler la date et dans quelle mesure cette directive était liée à la politique agricole de l'époque ?
Alors là, la directive sur l'eau, j'avoue que je n'ai pas retenu la date. Est-ce que quelqu'un dans la salle connaît la date sur la... Oui. C'est 2000, hein. Il me semblait que c'était 2000. Moi, j'aurais dit 2000 aussi, mais... C'est la directive sur l'eau, c'est 2000, oui. Mais, et donc, le second volet de votre question, c'était ?
Dans quelle mesure elle est liée à la politique agricole dite commune de cette époque-là ? Et comment elle pourrait évoluer, donc ?
Alors là, je suis dans mon champ d'incompétence s'agissant des problèmes agricoles. Mais effectivement, c'était un petit peu... Il y était fait allusion dans le film en raison de choix qui ont été faits, de choix en matière de culture. Donc effectivement, substituer à des cultures de blé, par exemple, ou de céréales issues de notre croissant fertile, y substituer la culture du maïs, effectivement, ça a provoqué une très forte augmentation de la consommation d'eau. Mais je n'ai ici, je vous avoue, que des données absolument communes. Ce que je vous dis là, c'est presque un lieu commun. Je ne travaille pas du tout dans ce domaine-là et j'avoue que je sur la politique agricole commune. Alors, ce qui est important et ce qui est évoqué là dans le film, c'est la notion de coopération. Hein, le fait que qui dit politique européenne commune dit coopération. Donc, il y a effectivement le repérage d'un certain nombre de bassins au-delà des découpages administratifs qui permettent peut-être d'avoir une vision plus écologique ou écosystémique de la ressource en eau et puis de sa gestion. Mais en même temps, le nouveau traité européen, ce qu'on appelait à un moment donné le traité simplifié, alors, d'après les spécialistes, tendrait plutôt à faire plutôt jouer la concurrence plus que la coopération entre les pays européens. C'est-à-dire que, bon, cette vision un peu d'une Europe qui est basée sur la coopération en matière de gestion de l'eau me semble être une vision un petit peu édénique au travers de ce que je peux lire à droite à gauche. Et on est aussi sur une logique de concurrence, me semble-t-il. Mais j'admets que ma réponse n'est sûrement pas satisfaisante puisque ce n'était pas exactement votre question, mais je ne suis pas compétent dans un domaine. Je vois peut-être quelqu'un que je connais un peu et qui aura des données un peu plus précises.
Oui, enfin, avant qu'Anne me dise que de faire plus court... C'est la dernière fois. La DCE, la directive cadre sur l'eau, a été conçue pour essayer de retrouver un état des eaux naturelles satisfaisant à l'échéance 2025. Dans l'état actuel de l'évolution, on sera à peu près au tiers de l'objectif à atteindre. C'est-à-dire que l'inertie est très très forte. Un exemple, les nitrates qui descendent par excès d'apport d'azote, par exemple, dans les terres cultivées, descendent grosso modo d'un mètre par an. Donc si on arrêtait même d'épandre des nitrates maintenant, ben, dans 25 ans, elles arrivent dans la nappe phréatique, en supposant qu'elles soient à 25 mètres. Donc l'inertie est très forte. Et l'inertie, elle est encore plus limitée par rapport à votre question sur la PAC, qui est effectivement révisée pour l'an prochain, parce qu'il y a des intérêts en jeu. Je le disais il y a deux jours, j'étais en petite souris à l'Assemblée générale des irrigants de la Vienne au mois de mars, 400 personnes dans le palais des congrès du Futuroscope, qui disaient tous, mais il faut continuer d'arroser le maïs, parce qu'on contribue à l'alimentation des gens, on rend service au public. Mais il y avait 70 exposants de semences, de pesticides, d'engrais, Groupama, des banques que vous connaissez, et une vingtaine de tracteurs et de machines autour du Palais des Congrès, toutes neuves. Donc c'est une machine énorme, et je comprends, surtout si j'étais vendeur de matériel à l'école, que je n'ai pas du tout envie de remettre en question la mécanisation et la grosse artillerie. Et il y a effectivement des personnes qui sont chargées de fournir des arguments aux députés européens, ce qu'on appelle des fournisseurs d'argumentaires, que d'autres appellent des lobbyistes. Il y en a 30 000 autour qui sont avocats aussi à Bruxelles, qui sont là pour éviter que la PAC remette complètement en question le système d'irrigation qui a des intérêts. Il y a eu des débats hier, mais bon, qu'est-ce qu'on arrose? Est-ce qu'on arrose des plantes tropicales telles que le maïs qui ont besoin de beaucoup de soleil, donc on est obligé de cultiver, surtout en été ici, au moment où il y a moins d'eau? Est-ce que c'est bien judicieux d'arroser une plante qui a besoin de beaucoup d'eau quand on n'en a pas énormément? Donc les intérêts, je vous dis, hein, si j'étais agriculteur avec 400 hectares, j'aurais pas tout à fait le même discours, et je veux bien comprendre que chacun défende son steak, entre guillemets.
Alors, il y a effectivement beaucoup d'intérêts et qui génèrent des conflits d'usage. Donc, tu évoquais le maïs. Donc, je pense, hier, il a dû en être question lors de la projection de l'autre film, quand mon collègue Pascal Chauchefoin est intervenu. Il a dû évoquer les problèmes de conflits d'usage. C'est un spécialiste de l'étude des conflits d'usage sur le bassin de la Charente. Alors, effectivement, c'est au moment où la demande en eau est la plus importante que les fleuves sont dans leur étiage. C'est-à-dire qu'il faut, alors effectivement, le maïs, le tourisme, l'ostréiculture. Donc on a différents acteurs de l'eau. Là, on pourrait presque faire une sorte de pièce de théâtre avec chacun ayant son rôle. Donc voilà, je suis l'agriculteur irrigant. Je suis effectivement quelqu'un qui a un camping avec un aqualand. Je suis un touriste, enfin, etc. Et donc chacun effectivement a besoin d'eau dans la période de l'année où il y en a le moins. Donc là, il y a des conflits d'usage très forts. Et puis, c'est lié effectivement à des choix. Alors, est-ce que, voilà, tant qu'on n'aura pas réglé le problème des subventions aux cultures irrigantes, bon, on réglera pas le problème que tu évoquais là. Et puis, alors, tu as évoqué tout à l'heure, oui, le problème des nitrates. Alors, j'étais un petit peu étonné, un des chercheurs parlait de l'eutrophication. Alors, on a bondi avec... Yves, qui était à côté de moi, disait, d'habitude, on dit eutrophisation. Hein, alors, je ne sais pas pourquoi il a dit eutrophication. C'était la première fois que j'entendais ça. Alors, effectivement, le problème qu'on évoquait là, de la pollution de l'eau par les nitrates, c'est lié, bien sûr, à l'apport de nutriments minéraux. Et le décorsetage, pour employer l'expression que j'ai trouvée intéressante dans le film, le décorsetage des fleuves permet effectivement de restaurer le fonctionnement des écosystèmes humides pour limiter l'eutrophisation. Même si l'eutrophisation, c'est un phénomène naturel. Hein. L'eutrophisation est un phénomène complètement naturel. Ça devient une pollution à partir du moment où ça s'accélère. C'est-à-dire que c'est l'apport excessif d'éléments minéraux qui va entraîner le développement excessif des plantes aquatiques. De plus en plus de plantes aquatiques qui sont à la surface de l'eau parce qu'elles ont besoin de lumière. Donc, ça va obscurcir la partie inférieure de l'eau. Ces plantes aquatiques qui vont mourir vont tomber au fond de l'eau, vont nourrir des bactéries. Ces bactéries, en se multipliant, vont consommer l'oxygène. Et donc, petit à petit, le milieu va devenir asphyxique et va se fermer. D'ailleurs, on peut dire que le destin d'un plan d'eau, c'est d'être effectivement progressivement eutrophisé, mais sur des échelles de temps extrêmement longues, et puis pourquoi pas effectivement d'être remplacé par une broussaille, voire l'implantation d'une forêt, si on parle d'un climax, un état d'équilibre. Mais le problème, effectivement, c'est que les activités humaines, industrielles et agricoles apportent un excès de nutriments minéraux, et donc le problème, c'est l'accélération. Je pense que aussi bien en matière de pollution qu'en matière de changement climatique, le facteur humain, c'est un facteur d'accélération. Puisque c'était évoqué, les changements climatiques, il y en a eu d'autres, de beaucoup plus amples par le passé. Simplement, il n'y en a jamais eu d'aussi rapide. Donc, accélération de l'eutrophisation, accélération du changement climatique. Donc là, effectivement, les écosystèmes n'ont pas la capacité à absorber des changements aussi rapides. C'est vrai que c'est assez intéressant ce travail actuel de renaturation des fleuves qui permet effectivement de reconstituer le fonctionnement des écosystèmes et puis le travail d'épuration qui est évoqué, le travail d'épuration naturelle qui est lié au fonctionnement de ces écosystèmes.
Oui, encore une question, mais c'est d'un autre domaine tout à fait. Les résultats de Massaru et Mato, là, les photographies de cristaux, sont présentés comme du pain béni, un peu, sans absolument aucune critique sur les conditions de l'expérience. Oui. C'est un peu étonnant, non ?
Oui, moi, j'avoue que je suis assez dubitatif sur ce l'insertion de ce petit de ce petit moment là, de cette petite séquence. On a l'impression que c'est de la pub, oui. Peut-être elle renvoie l'ascenseur à un pote, je ne sais pas. C'est un mauvais procès de ma part, mais non, ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Je suis complètement d'accord avec vous. Alors bon, mettre une étiquette sur un récipient et puis le simple fait d'avoir cette étiquette, ça change la forme des cristaux. Je veux bien. J'ai été trop formé ou formaté à la démarche expérimentale pour avaler ça, moi aussi. Mais bon. C'est sans doute gentil, mais sans doute que c'est un travail sur le plan artistique qui est fort intéressant, mais c'est un petit peu hors champ, c'est vrai, hein, oui. dans la présentation. Oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la politique des bassines qui sont régulièrement remises en question, tant à la fois pour leur prix, leur coût, pour la collectivité et puis les irrigants, et également la politique qui pourrait être menée avec cet argent par rapport à la dépollution et à l'économie des eaux.
Alors, je crains de ne pas pouvoir vous en parler, mais je vois que madame peut-être... Alors, peut-être si vous... si vous voulez peut-être éventuellement donner les éléments de la discussion. Pardon ? Est-ce que c'était lié à le problème de la privatisation de l'eau, les marchés, des partenariats publics-privés ? Non. Non, là, j'avoue que je ne suis pas...
Enfin, je ne suis pas du tout spécialiste et j'ai découvert l'histoire aussi il y a 2 jours. Donc, c'est l'implantation de réserves, on va dire, sous forme de bassines. Donc, ça vient de bassines. Un peu partout, et en particulier dans notre région. Avec derrière, effectivement, la question de l'accès et puis, en gros, du détournement de l'eau pour aller la stocker dans ces zones-là. Alors après, moi, la question du prix, je ne sais pas du tout quelles sont les problématiques. Je ne sais pas si tu as des données là-dessus. Je sais que c'est un débat assez vif, puisque c'est une forme de privatisation de l'eau, effectivement, puisqu'on va détourner des fins exclusives de certaines personnes. Des quantités d'eau assez considérables, d'après ce que j'ai compris.
Alors, c'est pour les mettre en réserve pour un usage futur, pour, un usage industriel, agricole.
Non, agricole.
Agricole, uniquement agricole. D'accord. Déjà, il y a un certain nombre de lacs de retenue d'eau qui ont été faites aussi pour cet usage-là, à la fois pour produire l'électricité et à la fois pour avoir une réserve d'eau pour les...
Là, c'est de taille un peu plus réduite, mais en les multipliant sur le territoire. D'accord. Et on a cité aussi des retenues collinaires qui étaient un peu dans le même principe, avec des conséquences écologiques aussi non négligeables.
Oui.
Certains départements, on arrose le maïs de 23h à 6h du matin. Est-ce que ça se fait dans la Vienne ? Je ne pense pas, non. Ils arrosent tout le temps, en journée, et avec l'évaporation d'eau, ils perdent. Et pourquoi ils ne le font pas, alors ?
Oui, là, c'était évoqué, effectivement. Arroser en plein soleil ou en plein jour, c'est un peu contre-productif. Ah, ça, je ne peux pas vous dire si dans la Vienne, ils le font ou ils ne le font pas.
Parce que dans certains départements, ils le font.
Oui, oui.
Et puis, il y a certains agriculteurs qui arrosent, je veux dire, une année, une journée, il va arroser leur maïs. Un autre agriculteur arrosera son maïs, mais plus de 2 jours après. Ils n'arrosent pas tous en même temps pour ne pas sécher les rivières. Vous comprenez ce que je dis ?
Oui, je comprends bien. Il n'y a pas du tout de coordination.
Voilà. Exprès pour pas que tout le monde pompe l'eau en même temps. Enfin, dans le département de la Dordogne, c'est comme ça. Après, je sais.
Vous avez l'impression dans le département de la Dordogne, il y a une organisation entre les différents irrigants. Alors, pardon ? Oui, tout à fait.
Moi, j'ai quand même retenu aussi lors d'un débat avec Rémi Fruchard de Météo France, Poitiers, donc qui connaît bien la situation régionale et qui, lui, a fini par conclure que bientôt, la question de l'arrosage du maïs ne se posera plus puisqu'on n'aura plus assez d'eau, de toute façon, pour arroser. Donc, la question risque d'être résolue d'une autre manière. Alors, ça sera catastrophique aussi, parce qu'il n'y aura pas que le maïs. Et ça, puisqu'il lui nous dit on n'est pas dans des conditions de sécheresse météorologique. La preuve, on a donc des quantités d'eau conséquentes qui viennent de la pluie. Mais par contre, on est en permanence depuis plusieurs dizaines d'années en sécheresse. Alors, je ne sais plus, il employait d'autres termes, agricoles, etc. Donc, parce que le bilan net, de toute façon, est négatif. On perd plus d'eau que ce qu'on en récupère, en tout cas dans notre région, mais assez globalement sur la France, et plutôt sur la façade ouest de la France. Donc, bon, alors, la solution la plus bête, c'est d'attendre, mais c'est je dirais c'est vrai qu'à ce moment-là, la question sera résolue.
Puis la solution peut-être moins bête, c'est d'anticiper et de prévoir des transitions. Parce qu'effectivement, ça peut entraîner non seulement des catastrophes sur le plan écologique, mais également économique et social. Parce qu'effectivement, tous les acteurs de cette, de, 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 de ce domaine de, au niveau de l'agriculture, doivent effectivement trouver d'autres types d'activités. Alors, effectivement, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir convertir les surfaces en autre chose? Sans doute. Je sais qu'il y a le même type de problème se pose pour la vigne, puisqu'il y a des études extrêmement précises qui ont été faites maintenant sur l'impact des changements climatiques sur la vigne. Et donc, effectivement, on est en train de modéliser l'évolution des territoires français. Il y a quand même 80 départements dans lesquels on plante de la vigne. Et donc, on est en train de modéliser l'évolution du secteur viticole en fonction des changements climatiques qui sont en train de se produire et qui sont annoncés. Même si ce n'est pas une région viticole très forte, on prévoit sans doute la disparition des vins de l'Hérault d'ici à 2050-2060. Donc, si vous êtes amateur de vins de l'Hérault, dépêchez-vous d'en acquérir. On prévoit effectivement une modification de la qualité des vins. Donc, est-ce qu'on va changer les cépages? Est-ce qu'on va changer... alors, probablement, on va changer les cépages. Là, déjà, au niveau du Bordelais, on a... dépasser la température optimale, c'est-à-dire que il fait trop chaud, il commence à faire trop chaud pour avoir des vins de la qualité qu'on avait précédemment. Et donc, alors, est-ce qu'il faut changer les types de cépages? Donc, effectivement, si on change les types de cépages, on n'aura pas les mêmes vins. Voilà, donc il y a un travail à faire avec les consommateurs. Est-ce que on va planter de la vigne à la hauteur de Londres? Là aussi, il y a des terres qui commencent à être achetées et dans cette perspective-là. Donc, il y a des transitions qui sont à prévoir et qui sont en train de se faire dans différents domaines liés effectivement au changement des climats et donc au changement du régime, du régime des pluies, du régime des eaux. Donc, alors, je ne sais pas ce qui se fait au niveau du maïs. Tu as l'air de dire qu'apparemment, pour l'instant, les gens attendent et ne... Ils arrosent tant qu'il y a de l'eau. Il y a un lobby puissant, effectivement. Et donc... Oui.
Juste pour compléter sur ce que tu disais, des propriétaires de vignobles de Champagne ont acheté des terres dans le sud de l'Angleterre dans la perspective du changement climatique. Donc, ça a du bon pour certains. Les Russes sont très contents qu'il y ait du réchauffement climatique avec la fonte des glaces parce que ça permettra de... diminuer par deux à peu près le transport de marchandises par bateau en passant par la zone proche de l'Arctique. Bon, mais juste sur cette histoire de température, on peut, pour sensibiliser un peu les personnes, dire un degré, c'est pas beaucoup un degré, tant mieux, on va mettre un t-shirt à la place d'un pull, etc. Mais quand on a 37 de température, ça va. Quand on a 3 degrés de plus, nous-mêmes, hein, ça va beaucoup moins bien. Alors, si nous, on est sensible à 3 degrés de différence de température, pourquoi ça ne serait pas possible pour d'autres organismes, animaux, végétaux et la planète dans son ensemble? Et là, ça peut-être que ça interpelle un peu plus. Sur l'histoire des bassines, juste un rappel pour ne pas donner l'impression que ce sont les agriculteurs qui sont des vilains méchants. Boîte à lettres récupérée tout à l'heure en passant dans la rue, en venant ici, une pub d'un supermarché qui nous dit qu'il y a la viande de porc à 3 euros et quelques le kilo. Donc le responsable, c'est peut-être pas l'agriculteur qui veut nous faire de la marchandise à pas cher parce que les porcs sont nourris essentiellement avec de la farine de maïs plus du soja importé. Donc c'est pour dire que la responsabilité, elle est un peu à différents niveaux. Je le rappelle quand même en tant que citoyen, consommateur, producteur, etc. Donc le porc a besoin de manger du maïs. Donc on cultive du maïs qui est une plante qui, peut-être, ne coûte pas très cher. Mais ça coûte cher pour l'environnement, donc indirectement pour l'ensemble des habitants. Les agriculteurs, leur argument pour ceux qui veulent irriguer en cultivant du maïs, c'est de dire, c'est quand même aberrant, un jour comme on est le 14, il y a plein de millimètres d'eau qui sont tombés sur Poitiers et les champs alentour. C'est quand même dommage de laisser partir cette flotte un peu dans le sol et puis dans le Clain, dans la Vienne, etc., à la mer, alors que l'été prochain, on aura besoin d'eau pour irriguer nos champs. Donc leur argument est de dire, stockons cette eau en faisant des bassines, entre guillemets, mais eux, c'est ils appellent ça plutôt des réserves de substitution. Et les bassines, ça fait quand même jusqu'à 300 000 mètres cubes. C'est pas la bassine qu'on met sous l'évier dans la cuisine, hein, 300 000 mètres cubes. Pour ceux qui prennent la Nationale 10 entre Poitiers et Angoulême, vous en avez une après Vivonne, juste après la prison et avant le restaurant de chauffeur de poids lourd, là, un truc en hauteur. Et vous en voyez une autre avec le niveau d'eau, parce qu'on surplombe un peu au moment où il y a 9 éoliennes en courbe un petit peu du côté de... C'est après... après Chaunay, avant Ruffec. Ah, c'est peut-être après Ruffec, vous avez peut-être raison. Voilà. C'est des buttes en forme de U, de carré plus ou moins, qui font 20 mètres de haut à peu près, dans lequel ils vont remplir d'eau en faisant non pas une déviation depuis la rivière, parce que ça, c'est la rivière est un peu loin, ils creusent, ils font un forage dans la nappe ou dans les nappes, mais là, c'est là où il y a dilemme, c'est parce que le débat est faussé. L'eau, quand il pleut, ne va pas directement dans la rivière. Elle va remplir, elle s'infiltre. Dans l'idéal, il faut qu'elle s'infiltre dans la terre pour reconstituer les nappes. Et si on prélève trop dans ces nappes pour les remonter en hiver et au printemps, on ne sait pas s'il y en aura après assez dans les nappes pour l'ensemble des autres besoins, toutes les communes qui ont besoin de... Voilà. Et en plus, eux disent, mais on ne va pas perturber les nappes superficielles, on va aller en profondeur. Mais les nappes profondes, elles sont constituées d'eau qui ont mis des milliers d'années à se constituer. Et que là, on est dans des orientations un peu à l'aveugle, parce qu'on ne sait pas scientifiquement pour l'instant quel serait l'impact de prélèvements importants dans les nappes profondes. Voilà. Côté financier, ça revient à 6 euros par mètre cube d'eau stockée, parce qu'il y a des machines qui vont, les bulldozers, les scrappers qui vont bosser pendant pas mal de temps, il y a une bâche à l'intérieur, il y a des vilains écolos qui vont des fois mettre un coup de pioche au fond de la bâche en écrivant S-O-E-A-U-S, on nous arnaque avec l'argent public pour financer la production privée, mais les agriculteurs disent, ben oui, on utilise de l'argent public, mais pour le bien public, puisque on va irriguer du maïs qui va servir à nourrir des porcs pour le bien commun. Donc voilà, donc ça renvoie à ce que tu disais, Anne. C'est bon, déjà, est-ce qu'il faut cultiver des plantes tropicales mexicaines d'origine dans le cas du maïs pour nourrir les cochons? Est-ce qu'il y a moyen de faire autrement? Et surtout, est-ce qu'on a besoin d'avoir du saucisson et des côtelettes et des je ne sais plus quoi? En plus, elles sont espagnoles, origine espagnole, côte de porc à manger tous les jours. Et l'enjeu, il est surtout là, quoi. Plus on consomme de végétaux, oui. Pour une petite info, la Chine et les Chinois sont plus nombreux que nous, pour l'instant en tout cas, 1,3 milliard ou 1,5 milliard. Ils sont passés de 20 kilos de viande par an et par personne il y a 10 ans à 50 kilos actuellement. Et du coup, tant mieux pour eux. Enfin, ils nous prennent comme exemple. On est à 92 kilos actuellement, en moyenne par Français, de viande toutes sortes, hein. Elle a baissé un petit peu, comme la quantité d'eau potable. Mais le risque, c'est que la demande en alimentation carnée rende très fort l'emprise sur la production de céréales, puisqu'actuellement, dans le monde, à peu près la moitié des céréales cultivées, blé, maïs, etc., servent à nourrir des animaux qu'on va manger. Mais au Mexique, ils mangeaient directement le maïs. En Afrique noire, on consomme du mil, on ne le donne pas à manger direct aux animaux pour manger les animaux, parce qu'il y a beaucoup de pertes de rendement en passant par l'animal. Mais le progrès, c'est encore sous-entendu manger plus de viande. Dire aux gens, faites des petits salés aux lentilles, mais sans porc, ou avec juste 20 grammes de lardons au lieu de 80 grammes, ça ne passe pas trop. Mais il faut... Voilà, il y a une inertie là-dessus.
Mais c'est ce que disait Agnès Ducharme l'autre jour, et c'est vrai que c'est le problème, il est là. Ce n'est pas seulement un problème d'eau, c'est aussi un problème de la façon dont on s'alimente. Qu'on laisse les pays émergents manger, etc. Oui, ils en tireront les leçons, mais là, il y a un moment donné, on n'est pas obligé de manger de la viande toute la semaine. Les gens qui sont un petit peu végétariens ou autres, avec lesquels on a discuté quand on a organisé les journées d'études sur l'homme et l'animal, ils disent deux fois par semaine, c'est suffisant. Bon, c'est aussi culturel, mais je pense que là, il faut aussi penser non seulement au bien-être des hommes, mais aussi au bien-être des animaux, parce qu'à un moment donné, on va dans le mur, sachant que cette viande-là n'est pas bonne. Je veux dire, elle est pleine de cochonneries. C'est ça le problème. Non, il n'y a pas que le porc. Hein. Je connais bien.
Non, c'est juste pour compléter ta réponse sur les histoires de cépages. Donc le problème actuel, c'est qu'il y a trop de sucre dans les grains de raisin. Donc du coup, le taux d'alcool est très élevé et on a du mal à trouver des vins qui titrent au moins de 13 degrés. Et d'ailleurs, tous les producteurs mentent un petit peu sur les étiquettes. En général, le taux d'alcool est plus élevé que ce qui est écrit sur l'étiquette. Et on arrive à trouver dans la vallée du Rhône, sur le bas, vers les Châteauneuf, etc., on a des vins, des producteurs qui arrivent à faire du 17-18 degrés, ce qui est la limite supérieure qu'on puisse atteindre. Après, de toute façon, on peut pas aller au-delà. Oui, directement. L'INRA, mais je suppose que ça se pratique, ça se recherche aussi ailleurs. L'INRA est en train de mettre au point un nouveau cépage permettant de revenir à une quantité de sucre moindre et à atteindre de nouveau 10 à 11 degrés, ce qui était classique il y a 30 ans, puisqu'il faut se rappeler que même dans des zones comme le Beaujolais, il y avait une autorisation de chaptalisation pour remonter le taux d'alcool pour le passer, je crois, à 11 degrés, qui était le taux attendu. Alors, on rajoutait du sucre donc à ce moment-là pour faire grimper le taux d'alcool. Ça, je peux vous dire qu'il n'y a plus aucun producteur de Beaujolais qui chaptalise. D'ailleurs, peut-être que les gens ont même oublié qui était M. Chaptal et le procédé de chaptalisation. Ah ben, c'est normal.
Oui, c'est vrai. Et quand je t'entendais parler, et puis effectivement les pays émergents, et puis l'augmentation du niveau de vie qui entraîne une augmentation de la consommation en eau, c'est vrai que ce qu'il faut rappeler, même si c'est une évidence, c'est que l'eau effectivement n'est pas plus rare qu'il y a 30 ans ou au siècle dernier. Hein. Tant que je sache, on n'a pas envoyé de l'eau dans l'espace. Hein, c'est la même quantité d'eau qu'il y a sur Terre. C'est effectivement une ressource renouvelable. Elle est très abondante. C'est vrai qu'il n'y a que 0,025% d'eau douce, mais elle est effectivement aussi abondante qu'avant. Simplement, on en consomme plus et on a de plus en plus de personnes qui en consomment plus. Alors maintenant, je ne sais pas si un Africain qui vit avec entre 5 et 20 litres d'eau par jour, on ne peut pas l'autoriser à consommer plus. Effectivement. Alors après, quand on dit les USA 600 litres par personne et par jour, alors il y a consommation directe et indirecte. C'est vrai que dans une autre vie, j'étais prof de collège et je vais passer à des élèves à une époque, un film qui était commenté par Alain Bougrain-Dubourg et qui s'appelait « L'eau, à quoi ça sert ?» Alors, « à quoi », évidemment, comme en latin, « A-Q-U-A ». Et alors, c'était une grande découverte pour des enfants, et puis sans doute aussi pour certains adultes, de voir que pour, effectivement, fabriquer une voiture, on consommait de grandes quantités d'eau. Donc, le film était extrêmement didactique pour ça, et on voyait donc des baignoires qui tombaient à grand bruit, voilà, pour fabriquer une voiture, et puis il y avait un certain nombre de baignoires pleines d'eau qui tombaient sur l'écran, en disant, voilà, donc... Les 600 litres d'eau par jour, ce sont les 600 litres qui sont liés à l'usage que nous faisons d'un certain nombre d'objets technologiques. Hein, alors, par jour. 600 litres par jour, ça n'est que l'eau potable.
Alors, au Canada, c'est pire.
Oui, donc. D'accord, donc là on inclut ce qui indirectement a été utilisé par le porc.
Ça aussi.
Ah ben alors c'est encore pire que ce que je croyais.
Bon, ce qui est marrant, c'est que quand il fait dans le film le micro-trottoir en demandant aux gens à la terrasse pourquoi vous utilisez de l'eau, personne n'a dit pour la chasse d'eau. Il revient juste après dans le documentaire, personne ne dit. Et quand... Je demande aux gens combien de fois vous allez aux toilettes par jour. Les gars, 2-3 fois. Les femmes, plutôt 5 par là. C'est à peu près ça. Il n'y a pas trop de contradictions. Si vous tirez la chasse, chaque fois, la chasse d'eau chaque fois, combien il y a de litres d'eau dans une chasse d'eau? 6 à 10 litres. Bon, les modernes, on
les
peut
modernes
à sortir 2 litres.
Oui.
Mais ça fait 30 litres d'eau qui partent dans la chasse d'eau tous les jours. 30 litres d'eau pour emmener un petit pipi ou un petit caca. mélangé qui part à la station d'épuration pour être après refiltré pour enlever le papier et tout le reste, pour renvoyer la rivière. Mais ça, c'est le choix de la France et de beaucoup de pays. Il n'y a que la Belgique et le Japon, mais généralisé au Japon, qui a un double circuit d'eau, de l'eau propre pour les chasses d'eau, mais ils réutilisent l'eau de lavage, de la vaisselle, du linge pour la chasse d'eau, entre autres. Et en Belgique, il y a deux réseaux. En France, on dit non parce que les gens vont confondre. Et bon. Mais c'est surtout une volonté d'intérêt de vendre de la flotte potable. Les pompiers utilisent de l'eau potable. La mairie de Poitiers utilise de l'eau dans les petits camions qui, avec les brosses, nettoient les trottoirs. Une cuve de 3000 litres permet de faire 5000 km. Ça fait 600 litres de flotte pour laver un kilomètre de trottoir. Je rencontrais un jour un gars originaire d'Afrique qui dit 600 litres d'eau pour laver le goudron. Vraiment, là, les blancs, hein.
C'est 200 litres par jour. C'est pas l'eau cachée, ça, alors. Donc, l'eau est sur, alors, les chiffres de l'eau cachée... De 1500 litres 1500 litres aux États-Unis. D'accord.
Sauf pour dire que c'est énorme.
Oui, d'accord. Alors, effectivement, on pourrait aborder la question des différentes réponses technologiques. Hein. Les toilettes sèches, effectivement.
Hermione là, et il y avait énormément de monde. Pardon, ils avaient installé des toilettes sèches. Bon, évidemment, les gens, c'était un peu surprenant, mais moi, ce que j'ai constaté, c'était pas bon, affolant pour les gens, c'est que ça ne sentait pas du tout. Ça ne sentait pas mauvais du tout. Et les gens le disaient, ben bon sang, ça ne sent pas. Alors que quelquefois, on va dans des endroits où il y a beaucoup de monde et puis des toilettes installées, et ça sent mauvais. Et voilà, donc ils venaient régulièrement. C'était pour une journée, oui, mais il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes. Voilà, donc pourquoi pas.
C'est une bonne idée, ça fait de bon engrais.
L'eau du puits aussi.
J'ai lu récemment, je ne sais pas dans quelle revue, où il y avait des régions où ils envisageaient de faire des toilettes publiques en toilettes sèches.
Ça, c'est effectivement souvent installé dans les parcs, les réserves naturelles, des choses comme ça. C'est un peu une vitrine technologique, on va dire, pour ce type de ce type de lieu. On peut imaginer que les visiteurs vont être plus sensibles à ce genre d'installation.
Alors, oui, il y a plein de solutions envisageables à l'échelle individuelle, mais bon, problème des puits, c'est après leur contamination. Et puis, le problème des nappes aussi, parce que jusqu'où vous descendez. Donc, bon. Ah, voilà, exactement. Ah ben là, ils descendent. Oui, oui. Oui, oui, il y a des belles pompes, oui. Oui, mais ils ont de l'argent, ils ont des ressources sur place,
là, ça va, oui.
Et là, ça marche. Parce que, bon, on n'a pas abordé aujourd'hui la problématique entre pays riches et pays pauvres, mais on a beaucoup débattu sur notre situation actuelle, et on est un pays riche. Hein. Quand on citait aussi le fait que, par exemple, l'Espagne a implanté des usines de désalinisation, c'était, on va dire, peut-être sur la trajectoire de l'Espagne, pays riche, l'Espagne est en crise. Et je ne suis pas sûr qu'ils soient encore en état de le faire pendant longtemps. Ah ben oui, non, mais vous avez des énormes problèmes de pollution avec les usines de désalinisation, c'est exact. Exactement. Bon, moi, je voudrais quand même terminer en vous disant ne soyez pas trop pessimiste quand même. On a passé une semaine avec, en acquérant beaucoup de connaissances. J'ai apprécié que certaines personnes, je crois que vous, madame, vous avez, ont été là du début à la fin, quasiment. Donc, bravo. Bon, globalement, on n'a pas eu une assistance très nombreuse, mais par contre, on a eu des échanges très, très nourris, pratiquement tout le temps, qu'on ait eu 10 personnes ou 80 la première soirée. Donc je remercie aujourd'hui Patrick d'être venu éclairer ce film. Je vous remercie d'être venu. Vous voulez encore dire un mot ? Je vous en prie, allez-y. Oui, alors vous aurez la partie audio intégralement. Et puis on vous promet sans doute dans l'actualité du printemps, alors vers le mois d'avril, une transcription d'un certain nombre de conférences. Voilà, dont certains articles sont déjà sur le Forum de l'eau, mais vous aurez un numéro avec un cahier central consacré à cette problématique de l'eau. Je pense qu'elle le mérite.
Il y a un article très intéressant sur le prix de l'eau.
Alors ça, c'était hier après-midi. C'était hier, Pascal. C'est Pascal qui a...
Ben justement, ça dépend de nos collègues.
Je ne sais pas quelle vitesse c'est mis.
Ça peut être un mois, deux mois, trois mois.
Olivier peut-être peut nous le dire. C'est déjà sur le serveur, mais elles sont... Oui, mais est-ce que c'est accessible immédiatement ? C'est Thierry. Voilà. Donc techniquement, ça peut aller très vite. Bon, merci bien. N'oubliez pas vos parapluies parce que je pense qu'il pleut encore.